gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Je ne m'entends pas.
Oui.
Moi non plus.
Allô Clara, il n'y a pas les micros.
Il n'y a pas les micros.
Est-ce qu'on est là ou pas?
Bonsoir.
Est-ce qu'on est là, dis-moi. Bon, on va quand même
essayer. On est là, mais super faiblement.
On va essayer de parler.
Si, si, vous êtes là.
On est là.
Bon, très bien. Bah, y a pas
on recommence.
De...
Allez, c'est reparti.
Bonsoir, vous êtes bien à la causerie sur Radio Canu, 22-23h. Sur 102.2 ou radiocanu.org. Et c'est très étrange, nous n'avons pas de retour. J'ai l'impression de parler dans le vide.
Non, mais on nous entend a priori à l'extérieur.
Si, si, je vous entends.
Tout va bien.
Très
alors.
Bien, très bien.
Alors attends, je vais monter ton micro, ne quitte pas. Vas-y, continue, fais la présentation.
Oui, 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 tout ça. Dimanche 19 juillet, il fait 35 degrés Celsius sur Lyon. Et ce soir, autour de la table, nous avons Jean-Yves.
Bonsoir.
Fab.
Salut à toutes et à tous.
Clara, la technique.
Bonsoir.
Et Emma.
Bonsoir.
Qui nous a fait une splendide ouverture.
Oui, sans micro.
Et alors du coup, on a un mail aussi.
Oui, on a un mail.
Oui, c'est la causeriecanu@gmail.com.
Mais aussi, on a un blog.
blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Voilà, c'est bien. Et puis ce soir, retour à une causerie au format habituel que vous connaissez.
À l'ancienne.
À l'ancienne.
Old school, quoi.
Ouais.
Tu sais, c'est quand on n'enlève pas la peau des graines, comme dans la moutarde. C'est la moutarde à l'ancienne,
oh,
c'est la causerie
pitié.
À l'ancienne.
Oh. Eh oui, oui.
Alors,
voilà.
Est-ce qu'on doit continuer vraiment?
Oui.
Avec lui, on était obligés. Tu sais, moi, personnellement, rien ne me lit.
En fait, je fais mes dernières causeries avant mon départ.
Un putsch se prépare.
Voilà, pour évincer les méchants.
Et tout de suite, on va faire des bisous à...
Alors oui, c'est une toile d'araignée, Emma, tout va bien.
Ça veut dire qu'il y a les habitants de pas loin, de Joguette.
Ben, tu voulais faire des bisous à qui?
Oui, on fait des bisous aux absents et absentes.
Oui.
Jonathan.
Nadège.
Voilà.
Et Kevin.
Kevin. Le petit... Et oui, on l'a oublié en prenant l'avion.
Kevin. Non, ça va être compliqué.
Voilà. Maman, j'ai raté l'avion. Le petit s'appelle Kevin.
Oui, il
voilà.
S'appelle Kevin. Oh,
c'est
ça. Culture des années 80.
Ah, si, alors là, si. Hein. Enfin bon, on va peut-être continuer.
On y va,
oui.
On y va,
ouais. Fab, ce soir, ouais. Tu voulais nous parler.
Ben moi, je fais le sujet chiant au départ.
Non,
je fais un sujet un peu étrange. Et puis après, on enchaînera sur des sujets qui n'ont pas grand-chose à voir derrière avec le mien. Mais voilà, donc je vais vous parler science ce soir parce que des fois ça fait du bien dans la causerie. Bah, avant de démarrer, je vais vous rappeler juste qu'on a encore un rendez-vous avec Georges le 20 septembre pour parler de l'espace, tout ça. Et vous allez voir que mon sujet, il est lié un petit peu à tout ça, même si je vais vous parler de l'infiniment petit, le tout petit, ce qu'on ne voit vraiment pas à l'œil nu. Et d'ailleurs, finalement, qu'on ne voit même pas. Oh, là, on se dit, mais de quoi il nous cause, celui-là ? Mais en fait, je vais vous parler des quarks. Alors, les quarks, ce sont... Oui, non, ne ris pas.
Des pierres précieuses.
Non, ça, c'est le quartz, mais ce n'est pas précieux. Non, les quarks, ce sont les particules qui composent, qui composent en dessous de ce que l'on connaît en visible, c'est-à-dire avec un microscope à balayage électronique. Vous pouvez voir à peu près les atomes se dessiner. Et les quarks, c'est ce qu'il y a dans les protons et les neutrons qui forment chaque petit morceau de ces atomes-là, pour faire simple. Voilà. En fait, la matière, c'est un grand jeu de puzzle pour essayer d'imager ça. Et le seul truc, c'est un jeu de puzzle entre plein de trucs de forme sphérique. C'est là que ça a un lien avec ce que Georges nous expliquait, c'est que les planètes, les étoiles sont toutes de forme sphérique. En fait, quand vous allez vers l'infiniment petit... Ben c'est pareil, ce qui est stabilisé est sphérique. Donc c'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Et depuis quelques années maintenant, et plus exactement depuis 1907, on se dit qu'à l'intérieur des neutrons et des protons, il doit y avoir quelque chose qui les constitue, parce que on sait que c'est pas la forme stable et finale de... Enfin, c'est une forme stable, mais ce n'est pas la forme finale de ce qu'on voit de plus petit. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Est-ce que je suis clair ou je la refais ? Alors on l'a refait. Non, en fait c'est assez simple, c'est que le proton c'est comme un œuf. On sait que dans un œuf il y a un noyau avec un blanc et tout ça. Et ben les scientifiques ont toujours su que dans un proton ou dans un neutron il y avait quelque chose à l'intérieur, comme dans un œuf en fait. Et que du coup il fallait aller voir ce que c'était. Donc en fait pour ça on a construit quelque chose qui s'appelle le LHC, le Large Hadron Collider, ou autrement dit le truc où on se fait se rentrer dedans des particules,
accélérateur de
particules qui se trouve au CERN, à la frontière franco-suisse et qui est enfoui à 100 mètres sous le sol. Voilà. Alors les gens se demandent toujours pourquoi 100 mètres sous le sol, tout ça, mais en fait c'est parce que c'est un endroit où on a le moins de perturbations possible, parce que l'idée dans un accélérateur de particules, c'est de prendre deux particules, généralement on prend les plus légères qu'on connaît, donc c'est l'hydrogène. On les accélère dans un sens, une dans un sens, l'autre dans l'autre, grâce à des électroaimants. Et donc, ils font le tour. C'est très grand, hein, c'est un anneau extrêmement large. Franchement, ça s'étale vraiment entre la France et la Suisse. Hein. Donc, c'est très, très grand. Et on les fait s'accélérer. Puis, petit à petit, on modifie leur trajectoire et on les fait se rentrer dedans. Parce qu'en fait, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Oui, c'est un petit peu comme si on voulait voir le moteur d'une voiture et qu'on faisait se rentrer dedans deux voitures, mais là, c'est à l'échelle microscopique. Et ça permet comme ça de créer des phénomènes en fait, qu'on savait exister d'un point de vue théorique, mais qu'on n'avait jamais observé. Donc, on arrive à les observer. Pourquoi on ne les avait jamais observés ? Parce que les seules preuves qu'on avait, elles étaient dans l'extrêmement loin. C'est ce dont Georges nous parlait. C'est-à-dire, c'était la création d'étoiles, l'explosion d'étoiles, des choses comme ça. Sauf que pour aller prendre des données à côté d'une étoile qui explose, on ne sait pas encore faire. Hein.
Oui, parce que c'est un petit peu loin.
C'est un peu loin.
Rappelons-le, n'est-ce pas ?
Voilà. Monsieur Kilomètre.
Donc du coup, pour étudier le phénomène, on allait le faire dans l'infiniment petit, mais on l'a créé sur Terre, en fait. Donc en fait, ce qu'on crée dans l'accélérateur de particules, c'est des événements cosmiques, en fait, ce qu'on appelle les événements cosmiques, mais à l'échelle extrêmement minuscule. Hein, on ne crée pas des trucs. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que des fois, ils parlent de faire des mini-trous noirs. Parce qu'en fait, ils créent des trous noirs instantanés qui durent quelques milliardièmes de seconde, mais qui se mettent à exister à l'échelle nanoscopique, quoi, vraiment à l'échelle de la taille d'un proton, ce qui est tout petit. Quoi. On ne voit pas le proton à l'œil nu, je le rappelle. Voilà. Et donc, quand ils ont cherché ça, ils ont découvert depuis quelques années des quarks. Mais ce qu'on n'avait pas trouvé, c'était combien il y avait de formulations de quarks. Et là, le 14 juillet, ils nous ont annoncé qu'ils avaient trouvé le pentaquarks. Alors, pentaquarks, il y a un joli nom, hein, ça veut simplement dire qu'en fait, il y a 5 quarks qui se sont mis ensemble, qui sont devenus poteaux, et qui ont créé une sorte de particule élémentaire avec 5 quarks à l'intérieur. Donc c'est assez nouveau parce que le pentaquarks, on savait qu'il existait depuis à peu près une cinquantaine d'années, mais on le savait d'un point de vue théorique, parce qu'en fait c'était en faisant des calculs mathématiques que les gens ont dit il n'y a pas de raison que cette forme d'énergie-là et cette forme de matière-là n'existe pas. Et en fait, on ne l'avait jamais découvert. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là on l'a trouvé, et surtout, on a donc validé ce qui n'était au départ qu'une hypothèse. Et c'est le principe de la science. La science, c'est vous faites une hypothèse et vous cherchez à prouver qu'elle existe. C'est-à-dire, c'est l'exact inverse de la religion, où vous estimez que Dieu existe et vous n'essayez pas de prouver qu'il existe. La science, c'est l'inverse.
Y en a un qui fait appel
à la raison.
C'est ça.
On vous laissera deviner lequel. Et donc, du coup, ils ont découvert les pentaquarks. Alors, ça a l'air comme ça, parce qu'ils en ont parlé dans les journaux, mais comme ils ne savent généralement pas trop comment parler de la science, ils ont juste dit ils ont découvert ça comme si ça n'avait aucune importance. En fait, c'est une importance qui est assez capitale parce que c'est la première fois qu'on observe en fait 5 quarks ensemble et c'est surtout la première fois qu'on se rend compte que cet état-là existe. Parce qu'en fait, ce n'est pas un état stable, c'est un état transitoire, comme on dit, mais qui sert dans la création de matière. Donc, ça permet d'expliquer un peu plus finement comment la matière se met à exister.
Donc, ouais. Ce serait une forme de développement du quarks.
Des quarks qui se mettent ensemble, parce que c'est 5 quarks.
Oui,
ensemble.
Oui, mais je veux dire, au départ, il est tout seul.
Non, ouais, les quarks, ils sont tout seuls.
Et donc, voilà. Ensuite, ils s'agglomèrent.
Ils s'agglomèrent pour faire de la matière.
OK.
Pour faire un peu simpliste, je veux dire, c'est ça. Simplet, c'était pas pour toi. Hein.
Merci. Bon, non, bah, allez, bonne soirée. Hein.
Salut.
Il faut que j'aille voir TF1.
Mais... non, mais ce qui est intéressant, voilà. Mais c'est... Alors, pour encore plus filer le vertige à tout le monde, il faut se rappeler que la matière, ce n'est jamais que de l'énergie qui s'est ralentie. C'est qu'au départ, tout est énergie. Et quand l'énergie se ralentit, ça fait de la matière. Donc, en fait, ce qu'on ne savait pas expliquer, c'est les états transitoires. Comment on passait de l'énergie pure à la matière qu'on peut toucher, quoi. Et le pentaquark, ça sert à ça. Ça nous sert à nous trouver un état transitoire. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit que 50 ans de recherche ont été nécessaires pour arriver à ça. Mais surtout, on y est arrivé avec un instrument qui, au départ, ne servait pas à autre chose que de faire de la recherche fondamentale. C'est-à-dire aller chercher à comprendre l'univers, comment il fonctionne, comment il marche. Et... c'est marrant parce que là, ils découvrent le pentaquark, ils sont très contents, mais tout de suite, ça ouvre plein d'autres questions. Alors, par exemple, il y a un scientifique qui dit, mais alors, est-ce que c'est un élément à part entière, sauf que le pentaquark, s'il existe tout seul, tranquille ou cool, ou est-ce que ce ne serait pas l'addition d'un méson et d'un baryon? Alors là, on dit, oui, bien sûr, évidemment.
alors
tout simplement... Parce
j'étais
que,
pas loin, quand même.
Bah oui, parce que... Parce que du coup, en fait, pourquoi il pose la question? Parce que le méson, c'est un quarks plus un antiquarks, et le baryon, c'est 3 quarks. Et si vous additionnez, ça fait 5. Et il dit, est-ce que le pentaquark, finalement, c'est pas cette espèce de différence entre... Enfin, une espèce d'état instable, mais stable un temps, on va dire, entre ces deux particules-là. Et vous voyez, donc une question répondue ouvre le champ des possibles à une quinzaine ou vingtaine ou trentaine de questions différentes. Donc c'est super intéressant. Merci Clarence, on entend beaucoup mieux, nous. Je pense que tu as touché, c'est nickel.
Donc, voilà. C'était ton micro.
Ah, merci. Et donc, du coup, c'est super bien parce que découvrir ça, c'est faire un pas de géant vers la compréhension de l'univers, de la création de la matière, et surtout, quand on arrive à le coupler avec ce qu'on a appelé le boson de Higgs. Vous savez, on en a parlé, c'est la fameuse particule de Dieu, parce que c'était ce qu'on cherchait depuis des années pour essayer d'expliquer comment la matière se crée. Vous voyez, c'est ça, le boson de Higgs, ça sert surtout à expliquer comment se crée la matière. Parce que le Graal, pour reprendre une expression très, très connotée religieusement, des scientifiques, c'est de comprendre enfin réellement et d'expliquer comment la matière se crée. Parce qu'on sait d'où elle vient, mais on ne sait pas expliquer les étapes. Alors si on arrive à expliquer les étapes, on arrive à comprendre beaucoup plus finement l'univers. Donc c'est super intéressant de voir que ça s'est fait comme ça. Et surtout, ça s'est fait en collaboration avec une équipe de chercheurs qui contient ni plus ni moins que 43 nationalités. Donc c'est super intéressant de voir que c'est aussi un travail qui est fait avec plein de gens du monde entier, sans se soucier de la géopolitique et de savoir si on s'aime bien ou pas, et puis si on a la même religion ou pas, et puis si on a la même couleur de peau ou pas. En fait, ils s'en tapent, ils font de la science, et ça c'est vachement intéressant.
Donc ce qui est fait à cet endroit-là, ça appartient en fait à tout le monde.
Oui, parce que ça relève, alors je crois que c'était le traité des sciences de Stockholm, il me semble, de mémoire, où en fait tous les scientifiques de recherche fondamentale se sont mis autour de la table et ont dit, à partir du moment où on trouve quelque chose, on l'offre à l'humanité. Donc en fait, on le publie et les gens peuvent se servir de cette connaissance-là. Donc c'est super intéressant de voir qu'il y a quand même une notion très intéressante de solidarité dans la science fondamentale qui n'existe pas forcément dans la science privée, qui elle, même s'il y a des plus privés qui font du fondamental, mais c'est assez rare. C'est plutôt généralement des laboratoires publics. Mm-hmm. Parce que justement, le privé n'a pas envie de devoir donner son brevet quand il trouve quelque chose. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, je disais, c'est que le pentaquark, ça va nous permettre de mieux comprendre l'univers en liant ça avec le boson de Higgs. Ça va nous permettre aussi de mieux comprendre comment la matière se crée, donc je le redis parce que c'est ça qui est très important. Parce qu'en fait, les scientifiques aujourd'hui, ils sont à la recherche de quelque chose de très étonnant, ils sont à la recherche de la naissance de l'univers, c'est-à-dire le Big Bang. Qu'est-ce qui s'est passé quand ça a fait bing? Et qu'est-ce qui s'est passé quand on part du principe que l'univers tout entier tenait dans une tête d'épingle au départ, et a explosé pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui avec les distances dont Georges nous parlait, des milliards de milliards d'années-lumière, des milliers de milliers d'années-lumière, et que du coup, et les scientifiques, ils sont vraiment à la recherche de mais comment c'est possible qu'au départ, ça tienne dans une tête d'épingle. Donc voilà, c'est tout ça. Et je voulais en parler parce que, enfin, c'est aussi pour faire une digression. en disant que ben, ce travail-là, ça a pris 3 ans. Donc au départ, ça a été découvert avec la première version de l'accélérateur de particules. Qu'aujourd'hui, ils ont mis une deuxième version, 2 fois plus puissante en place. Il y a une mouche qui nous embête, pardon. Mmh. 2 fois plus puissante en place et qui va permettre d'affiner encore les recherches. Mais qu'à chaque fois qu'ils font se rencontrer deux petites particules ensemble, ben, en fait, c'est 3 ans de travail derrière. C'est-à-dire, c'est 3 ans de calcul mathématique. Ils font ce qu'ils appellent une étude à 5 dimensions. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est, parce que je n'ai pas compris. Et je pense que à part eux, il n'y a personne qui comprend ce que veut dire 5 dimensions. Mais ils font une étude vraiment très très longue et ça prend 2 à 3 ans à chaque fois. Et les chercheurs, ils sont très contents parce qu'ils disent que pour la première fois, en fait, du fait qu'on a réinvesti dans l'accélérateur de particules, on devrait faire des bonds de quasiment 30 ans à chaque fois qu'on fait s'entrechoquer des molécules, des particules, parce qu'en fait, à chaque fois, on arrive à prouver des choses qu'on sait mathématiquement depuis 80 ans, 100 ans, 40 ans, mais on les prouve. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut prouver dans la science. Donc voilà. Moi, je voulais juste te dire que justement, la recherche fondamentale, souvent, on entend dire que ça coûte cher, qu'il faut arrêter, que c'est de l'argent foutu en l'air. Je voulais juste rappeler à tous ceux qui écoutent la radio aujourd'hui, qui utilisent un smartphone, qui ont été soignés d'un cancer, qui ont pu passer dans des scanners, qui ont des choses comme ça, que c'est tout venu de la recherche fondamentale. Si on ne fait pas de recherche fondamentale, on ne peut pas trouver de nouvelles applications. Donc voilà. Et puis ne serait-ce que pour comprendre comment fonctionne l'univers, ça vaut le coup de le faire. Parce qu'à un moment donné, si on veut sortir justement du siècle du religieux, si on veut sortir de la bêtise ambiante qui est en train de nous prendre avec tous les sites complotistes à 3 balles qui nous font croire qu'avec une paille, vous pouvez faire tomber 2 tours et que les 11 septembre n'a jamais existé, par exemple, ou des conneries dans le genre, et bien tout ça, en fait, c'est par la recherche et par la science qu'on y arrive. C'est en ramenant de la raison et surtout, c'est en collaborant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans la recherche fondamentale, il y a une énorme collaboration internationale et qu'elle se fait au-delà et au détriment même des fois des guerres géopolitiques qu'il peut y avoir. Par exemple, il y avait des échanges pendant la guerre froide entre les scientifiques russes et le reste du monde. Parce qu'en fait, ils trouvaient des trucs et ils n'avaient pas envie de le garder pour eux parce qu'ils disaient « Non, mais ça, c'est tellement fondamental, c'est tellement important pour l'humanité qu'on ne va pas le garder pour nous. » Et inversement, il y a des scientifiques européens ou américains qui avaient donné des infos aux scientifiques sous l'URSS parce qu'ils disaient « Non, mais ça, il faut que vous le sachiez, quoi. C'est quand même trop bien qu'on ait trouvé ça. » Vous voyez, ça peut paraître bête, mais c'est parce qu'ils sont vraiment sur la notion de don à l'humanité. Ça, je ne le dis pas en déconnant, c'est souvent des scientifiques assez étranges. Allez au CERN, ça se visite, hein, vous pouvez rentrer, vous verrez que des gens, allez-y en été, vous verrez des gens en short et en tongs, et avec des chemises hawaïennes, mais en fait, ces gens, c'est des scientifiques, ils ont généralement bac plus je sais pas combien, mais ils sont super cool, et ils vous expliquent avec beaucoup de passion ce qu'ils font, et eux, ils ont un grand... Enfin, comme ils disent, ils ont une grande aventure devant eux, en fait, c'est de réunir les hommes par la connaissance. Et je trouve que c'est super beau comme défi. Parce que voilà, comme ils disent, chacun est libre de croire en ce qu'il veut, il veut croire en Dieu, en ce qu'on veut. Mais par contre, il y a des fondamentaux, c'est pour ça que ça s'appelle la recherche fondamentale. Il y a des fondamentaux, des choses qui sont indéniables, des choses qu'on connaît, qu'on doit tous connaître. Et qu'une fois qu'on les a, eh ben, en fait, on voit qu'on n'est que des poussières d'étoiles, et qu'on n'est pas grand-chose dans l'univers. Et qu'en final, bah, oui, ils ont l'espoir de se dire que si on arrive à expliquer certains phénomènes, bah, les gens commenceront plutôt à regarder leur vie plutôt que d'attendre après la mort pour se dire qu'il y a quelque chose de mieux. Vous voyez, donc c'est ça que je trouve chouette. Donc, on a trouvé le pentaquark. Ça veut dire que Georges va pouvoir revenir nous expliquer comment on forme les planètes et il ne mettra pas des quarks dedans. mais voilà, c'est pour dire que ce qui paraît être une information anodine, derrière, c'est des centaines de personnes qui travaillent, c'est des heures et des heures de recherche, c'est des choses comme ça, mais que surtout, c'est fait. Bah, c'est fait pour l'humanité, quoi, et c'est pas fait pour une multinationale ou quoi que ce soit. Et c'est vachement intéressant de voir qu'il y a ça qui existe et que ben voilà, et qu'on avance, et puis que petit à petit on arrive à découvrir peut-être un jour comment ça marchait le Big Bang. Puis on verra qu'il n'y avait pas un mec qui poussait l'interrupteur, quoi. c'est ça qui est cool. Voilà. Et puis pendant que j'écrivais ça, je tiens juste à le dire, c'est que pour dire que ça avance beaucoup en ce moment, comme il disait qu'en ce moment on fait des bonds de 20-30 ans à chaque fois grâce aux accélérateurs de particules ou à la recherche fondamentale qui est un peu mieux financée ces derniers temps qu'il y a 10 ans en arrière. Quoique non, parce qu'en France, ce n'est pas vrai. Ben en fait, on a découvert une particule élémentaire qui s'appelle le fermion de Weyl. Alors, ils ont toujours des noms très marrants, moi j'aime bien. Et en fait, le fermion de Weyl, ben, c'est une particule qui a la particularité de ne pas avoir de masse. Et ça, c'est très étrange. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe, mais qui ne pèse pas. Voilà, et ça, c'est... Voilà. Et on savait que ça existait, on savait que ça pouvait exister. Parce que c'est comme un électron, ça pèse quasiment rien. Et ben là, le fermion de Weyl, il a encore moins de masse qu'un électron, donc il pèse quasiment que dalle, c'est-à-dire qu'on n'arrive vraiment pas à le voir. Et c'est intéressant parce qu'en fait, eh ben, ça veut dire qu'on pourra peut-être dans l'avenir appliquer ça à ce qu'on fait aujourd'hui avec, au transport de données, vous savez, l'informatique, et qu'en fait, ça ne chauffera plus, donc on pourra aller des milliers de fois plus vite sans chauffer, donc avoir des ordinateurs extrêmement puissants. Voilà, mais ça paraît très bête, et ça a été découvert par des scientifiques vraiment par hasard, en utilisant une espèce de cristal un peu bizarre, voilà, qu'ils ont... Personne ne misait sur eux au départ, et aujourd'hui, ben... Il y a une société qui s'appelle Google et qui, du coup, va financer de la recherche fondamentale aux États-Unis parce qu'ils se rendent compte que ben, ça pourrait peut-être leur servir. Vous voyez. C'est... Il y a toujours ce mauvais côté derrière qui vient là. Mais ils ont été obligés d'accepter que les scientifiques qui ont trouvé ça le publient au niveau mondial et donc ne le réservent pas à Google alors qu'ils leur avaient demandé. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment une notion dans la recherche fondamentale qui est plutôt positive. Et puis, moi, je tiens à le redire, si on veut arrêter d'être bête, il faut chercher. Voilà. Okay. Ça va, c'est vous avez tous bien compris à quoi ça sert un quarks ? Alors, interrogation, c'est quoi un quarks ?
Je propose que je te réponde pendant qu'il y a la musique.
Allez, on fait ça.
Vous êtes toujours dans la causerie, on vient d'écouter Vigavag avec le titre And and You.
Ah, c'était bien dit ça. Un choix de Clara, comme vous l'aurez compris.
Voilà.
Eh bien, continuons cette causerie, Emma, c'est à toi.
Oui.
Tu voulais nous parler d'un sujet pas très joyeux, mais non. Qui mérite d'être souligné.
Non, pas très joyeux et surtout un sujet complètement tabou. Je voulais parler de viol conjugal, mais au niveau, du point de vue masculin. C'est-à-dire que j'ai lu un témoignage d'un couple, et c'est donc l'homme qui témoigne. Alors j'ai décidé de ne pas retranscrire l'intégralité de son témoignage, mais plutôt d'expliquer la situation et de donner quelques phrases. Il témoigne en tant que victime, c'est « Je suis un homme victime de viol conjugal ». La source, je l'ai trouvée sur mademoiselle.com et il me semble qu'il y avait un autre site, je ne sais plus, c'était les Inrock qui a aussi fait le lien sur ce témoignage. Donc juste pour expliquer la situation de cette personne, donc c'est un homme qui est en couple depuis 6 mois avec celle qu'on va décrire comme sa compagne. Et on va dire qu'effectivement, il y a un soir, elle commence, on va dire, à l'embrasser, à le caresser. Et lui, ce soir-là, il n'a juste pas envie. Donc, il essaye premièrement de lui expliquer. Mais elle, tout de suite, en fait, elle va se sentir visée et rapprocher ça d'elle et rapprocher ça de son physique, comme une atteinte à son physique. Donc voilà, elle lui rétorque une super phrase en lui disant « Mais c'est pas possible, un mec a toujours envie ». On reviendra là-dessus après. Donc lui reste quand même assez... alors j'aime pas bien ce mot, surtout dans cette situation, mais essaye de rester pédagogue et lui explique que non, un homme n'a pas toujours envie, que de toute façon, ça ne se résume pas qu'à des envies sexuelles, et que ce soir-là, il a juste envie d'autre chose. Et elle ramène encore la situation sur elle. Elle dit que de toute façon... Pour elle, ça signifie qu'il n'a plus envie d'elle, qu'il ne la désire plus. Et apparemment, je ne sais pas si elle passait une mauvaise semaine, comme il le décrit dans son témoignage, mais en tout cas, elle commence à avoir des pensées un peu suicidaires. Donc lui, en fait, pour essayer de la rassurer, il la reprend dans ses bras, il essaye surtout de la calmer. Et là, voilà, il nous explique qu'ils sont sur le canapé, qu'elle commence, elle, à son tour, à se calmer, à l'embrasser, à le caresser. Et là, en fait, elle passe sa main sur son entrejambe. Et en fait, il décrit ça comme dans le témoignage, il dit réaction naturelle ou pas. En tout cas, il a eu une érection. Et elle a profité de ce moment-là pour lui grimper dessus et en fait pour se mettre clairement sur lui. En fait pendant les même pas 5-10 minutes que dure l'action, il explique qu'il en a juste pas envie, qu'il pense à autre chose et qu'en fait même son corps à lui, alors pas tant à elle mais son propre corps à lui le dégoûte, que quand ils ont fini il sent une espèce de malaise, elle pareil, elle part tout de suite se coucher, lui il reste comme bloqué. Et en fait, il sent bien qu'il y a eu quelque chose dont qu'il n'avait pas envie. Il pense à cette question du viol, mais il se dit « c'est pas possible parce que c'est dans mon couple, c'est avec la personne que j'aime et la personne que j'aime ne me viole pas ». Alors du coup, voilà, il se dit « non, mais c'est pas possible, c'est pas... ». Il en a déjà entendu parler du viol conjugal, alors plus du point de vue des femmes, mais du coup, il dit « c'est pas possible, c'est pas ce que je viens de vivre ». Et en fait, là, il nous décrit dans son témoignage les mois qui suivent cette fameuse nuit. Et c'est assez atroce. Il se remet à fumer alors qu'il avait arrêté depuis 2 ans. Il boit un peu à excès pour oublier des choses. Au niveau du travail, il essaye de plus en plus de faire des heures supplémentaires. Et surtout, en fait, il en vient à se masturber 5 fois par jour. Même pas par envie, mais même au bout de 5 fois, ça lui fait mal, ça lui provoque même des micro-coupures et tout ça, pour en fait avoir entre guillemets une bonne raison quand il rentre d'avoir une panne. Parce qu'elle, en fait, ils sont rentrés dans un système un peu de peur et aussi de chantage affectif. Et il le dit, et je trouve que c'est tellement poignant dans son témoignage. Il nous dit qu'il a passé plusieurs mois comme ça à faire son devoir conjugal. Donc, en fait,
le mot devoir est important.
Ouais, le mot devoir est important. Et en fait, elle, voilà, à chaque fois que lui essaye de lui expliquer que non, il n'a pas envie, elle revient dans ce système de dire « Ah, mais t'as pas envie de moi, mon corps te dégoûte. » Et du coup, lui, effectivement, il fait son devoir conjugal en acceptant malgré lui. Et il nous dit que surtout dans cette période, il s'est senti vraiment coupable, parce que coupable de céder, mais coupable aussi parce que c'était son couple et que du coup, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais il ne voulait pas se l'avouer.
Il ne l'avouait pas, mais il faisait quand même, comme tu disais, il faisait des heures sup pour ne pas rentrer de chez lui.
Il trouvait des...
Il y avait des échappatoires, donc ouais. Il avait quand même une conscience que quelque chose ne fonctionne pas.
Il avait conscience, mais effectivement...
Que quelque chose n'était pas normal. Quoi.
Que quelque chose n'était pas normal, mais c'était toujours ça. Il se ramenait toujours à son couple, on a des sentiments l'un pour l'autre, et ce n'est pas possible. Et du coup, quelques mois passent comme ça, et puis il trouve un échappatoire, enfin, bon, la fin, peu importe. Mais du coup, il nous raconte surtout l'après. Il nous dit qu'effectivement, ça a laissé des séquelles physiques parce que du coup, à force de masturbation, bah, il s'est créé vraiment des mycoses, des micro-coupures et j'en passe. Mais c'est surtout une énorme perte de confiance en soi et aux autres qu'il a eu du mal à retrouver. Et surtout, il avait énormément de mal à parler de ça à son entourage. Et il disait pour deux raisons. Déjà le fait qu'effectivement c'était dans mon couple que ça se passait, mais aussi le fait que j'étais un homme et que j'avais l'impression du coup d'être tellement vu souvent comme l'oppresseur que du coup j'étais encore moins apte et légitime à parler de ça. Et donc du coup le problème c'est qu'effectivement il en a parlé pratiquement à personne autour de lui, à part ce témoignage en fait qu'il a écrit. Et du coup, effectivement, il s'est en plus renfermé et replié sur lui-même. Et du coup, moi, ce témoignage, en tout cas, qui est ce qu'il est, qui est complètement poignant, je trouve que c'est intéressant de... J'en ai lu d'autres du point de vue féminin, je trouvais important du point de vue masculin, parce que, pour ne pas oublier déjà que ça se passe des deux côtés, que ça se passe dans les couples hétérosexuels, homosexuels, hein, on va aussi le rappeler. Mais c'est surtout que, il y a toutes des notions qui me semblent primordiales et que j'ai l'impression qu'ils sont laissées de côté, comme le dialogue dans un couple et aussi encore cette notion du consentement et cette notion aussi de pression. Et puis alors encore là, une fois, c'est ce qu'elle lui dit au départ, mais un homme a toujours envie, on en revient encore à ces doubles standards les hommes et les femmes, et surtout au niveau des envies et des besoins sexuels. Et je trouve ça assez effarant qu'elle, du coup, elle revienne là-dessus pour le faire en plus culpabiliser et lui dire mais non, et puis le faire dévier de la normalité. T'es un homme, tu dois avoir tout le temps envie, là, t'as pas envie, donc t'es anormal. Et voilà, et je voulais juste rappeler un chiffre qui fait assez peur, mais qui est ce qu'il est, c'est que sur les viols qui ont été répertoriés en 2014, 31% des viols subis sont commis par le conjoint de la victime. C'est-à-dire que, en fait, 31% pour simplifier, 31% des viols commis sont des viols conjugaux, donc qui se passent au niveau du couple.
C'est quand même un chiffre qui fait froid dans le dos, quand même.
Oui. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos et je pense qu'en fait, des témoignages comme ça, alors que ce soit de point de vue masculin ou féminin, sont importants parce que, encore une fois, on est sur les limites. Et je pense que malheureusement, ça peut aller basculer vite d'un côté et que peu de personnes en fait, s'en rendent compte. Et il y a toute cette réflexion que lui explique très bien dans son témoignage. C'est pour ça que je vous invite à aller le voir. Où, voilà, encore une fois, c'est comme les violences physiques conjugales où les personnes disent « Mais non, c'est mon couple, c'est la personne que j'aime. » Et comme c'est mêlé aux sentiments, c'est pas possible. Ça peut pas être mon oppresseur, ça peut pas être mon violeur. Sauf que si. Et que je trouve que des témoignages comme ça sont importants en fait, d'être amené un peu au devant. Pour qu'on puisse se rendre compte de choses comme ça. Et les 31%, moi aussi, le chiffre m'a totalement surpris. Je m'attendais beaucoup à moins. Mais n'empêche que c'est la réalité. Quoi.
Alors, quand tu ajoutes à ça que tu as 31%, c'est dans le couple, et je crois qu'il y a 30 et quelques pourcents, c'est un proche.
Par l'entourage, ouais, exactement.
Tu te rends compte que finalement, la violence est très présente encore. Ouais.
Il me semble qu'en fait, c'est 20% des viols qui doivent être vraiment commis par un inconnu. C'est ça, il y a 31% des viols par le conjoint, 30 ou 31% des viols commis par un entourage, et je crois qu'il y en a une vingtaine ou par quelqu'un, enfin
un collègue de travail,
quelqu'un de l'environnement, quoi. Donc
ouais, là aussi ça démontre vachement ce truc de ces choses là ça se passe toujours avec des gens qui sont pas connus, tu vois, c'est une inconnue, et en fait non, quoi. Et là encore une fois, c'est l'intime, il est ultra politique en fait, parce que enfin que ça soit les viols, enfin l'inceste, etc., c'est pas l'inconnu qu'on connaît pas. Enfin, c'est souvent dans les cercles familiaux, amicaux, etc. Et que là aussi, souvent, on balaye vite ça, en fait. On reste centré sur les 20% qui seraient de personnes pas connues, pour pas voir quand même que la grosse majorité, elle vient quand même du cercle de la proche de la victime.
Et puis encore, les 20%, ils sortent du fait que c'est les statistiques après plainte.
Exactement.
Donc ça veut dire que voilà, après je pense que plus le sujet sera connu, plus les gens vont parler, et le chiffre risque de s'amoindrir sur les inconnus, mais d'augmenter sur les viols conjugaux et les viols commis par des proches. Oui. C'est terrible à dire, hein, ce que je dis là, mais j'ai malheureusement l'impression que c'est ce qu'on voit en fait, parce que depuis qu'on a ces notions là dans la loi et dans le fait qu'on en parle, finalement on se rend compte que ça existe et que c'est à beaucoup plus grande échelle que ce qu'on imaginait au départ, quoi. Ouais. Et tu parlais du consentement.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui s'appelle « Le consentement, c'est comme une tasse de thé ».
Une tasse de thé, oui.
Je vous la conseille, c'est les Anglais qui ont fait ça, c'est magnifique. Et il y a par exemple, quand quelqu'un vous dit « j'aimerais bien du thé » puis qu'il change d'avis, on ne lui fait pas boire le thé de force. C'est pareil avec le sexe, en fait. Il y a plein d'exemples comme ça, et c'est pas mal.
J'en avais déjà parlé du projet Crocodile, en fait. Ouais. Les planches de BD, en fait, qui sont faites autour, en général, du harcèlement de rue, mais qui reprennent aussi d'autres notions comme le sexisme ordinaire. Et il y a une planche qui est terrible, mais qui parle du viol conjugal et qui est très bien illustrée. Et sincèrement, je vous invite à aller la voir parce qu'elle est parlante. Et voilà, où on se retrouve dans un couple, et là c'est l'homme qui est effectivement l'oppresseur, et c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elle n'a pas envie, il lui dit mais quand même, allez, il insiste, elle se sent obligée, et là encore c'est ça, c'est le consentement, c'est le non-dialogue à un moment dans un couple, et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il part, elle se sent sale, elle dit mais c'est pas possible ce qui vient de m'arriver, je me suis quand même pas fait violer par l'homme que j'aime, l'homme qui m'aime, par mon copain, et en fait si.
Et d'ailleurs le projet Crocodile part pour une saison 2, mais avec une dessinatrice. C'est plus le même dessinateur.
D'accord.
Voilà. Bah oui, non, mais on est au top de l'actualité, de l'info à la causerie. Vous voyez quoi, on arrive comme ça, paf, on balance des trucs, on est voilà, au taquet.
On va essayer de mettre peut-être le lien, comme si j'arrive à le retrouver, du témoignage, justement, comme ça.
Sur le blog, tu veux dire?
Ouais, sur le blog, ouais. Comme ça, les auditeurs et auditrices pourront y jeter un œil. Voilà.
Moi, j'avais juste une question comme ça. Dans son témoignage, en fait, tu dis qu'il en a parlé à très peu de gens.
Ouais.
Et quand il explique comment il est venu à témoigner, du coup.
Non, il explique pas comment il est venu à témoigner là-dessus. Enfin, non, il explique pas là-dessus.
Non, mais c'est enfin parce que c'est une démarche, enfin pas anodine, quoi, de dire d'un seul coup, finalement, j'arrive pas à en parler, mais je vais témoigner et écrire.
Mais
il a
son témoignage date de 3 ans après son viol conjugal.
Ouais, donc il a fallu beaucoup de temps.
Il a fallu beaucoup de temps. Et après, il explique pas. Enfin voilà, il dit qu'effectivement, ça lui a laissé des séquelles. Il parle pas vraiment de l'après. Enfin, il en parle très vaguement. Il dit qu'effectivement, il a eu énormément de mal à retrouver confiance aux autres et surtout à retrouver une relation de couple. Mais le témoignage, effectivement, a été écrit et reporté 3 ans après son viol conjugal.
Ouais, donc,
il a fallu 3 ans. C'est ma déduction personnelle, qu'il arrive à mettre les mots sur ce qui s'était passé.
Ah, c'est impressionnant quand même.
Ouais.
Musique.
Allons-y.
I can't move, I didn't
Et oui, vous êtes de retour à la causerie. Et on vient de s'écouter Skunkenazy avec She's My Heroine.
Et jusqu'au bout, c'était.
On a un petit doute en fait sur la fin. voilà. Peut-être que vous avez écouté en exclusivité un autre morceau qui s'est collé ou un morceau de live ou peut-être ces conversations téléphoniques. Je sais pas.
Avec toutes les excuses de l'équipe technique qui a préparé le CD. Voilà.
Et Jean-Yves, tu voulais nous parler d'un merveilleux voyage qui attend d'ailleurs toute l'équipe de la causerie.
Et on va tous y aller ensemble.
Oui,
ça va être bien.
Plaît.
Ah bon, je ne savais pas. Effectivement, je vais vous parler d'une petite destination qui est quand même parfois de vacances. Parce que je vais vous parler du Puy du Fou et d'une info plus particulièrement. Parce qu'en fait, le 5 juillet, on apprenait par le journal, je crois, c'est Sud-Ouest. Non, c'est Ouest France, pardon. Le vendredi 3 juillet, le parc vendéen de Philippe de Villiers, hein, si vous vous en souvenez.
Ah, mais déjà, j'ai moins envie d'y aller.
Ouais. Et ben, ils ont fait, le Puy du Fou a fait un don à l'association, à la fondation Jérôme Lejeune.
Ah, ben, j'y vais plus du tout.
De toute façon, on n'a pas le droit d'y aller. Je pense qu'on te met un triangle rose à l'entrée. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Tout c'est interdit.
Alors, je pense qu'un jour, on y arrivera. Mais, enfin, ils y arriveront. Et donc, ils ont fait un don à cette fondation de 50 000 euros. Et je me suis dit, tiens, on va quand même essayer un peu d'en parler parce que le Puy du Fou, c'est, comme je vous le disais, pas n'importe qui non plus qui l'a ouvert et qui le fait tourner. La fondation Jérôme Lejeune, c'est carrément pas n'importe quoi non plus. Donc je me suis dit, tiens, on va essayer un peu d'en discuter, parce que quand même, le Puy du Fou, c'est le deuxième parc de France qui est le plus visité.
Après Disneyland, c'est ça ?
Après Disneyland. Alors, loin derrière, mais quand même, il y a des gens qui y vont, quoi.
Et c'est combien de personnes à peu près par an ?
Le Puy du Fou, c'est 1 740 000 personnes.
Ouais, c'est pas rien, quoi.
Non, Disney, Disney, on est à 10 fois plus au moins, je crois.
Ouais, mais Disneyland, c'est ils ont un rayonnement européen.
Effectivement.
Le Puy du Fou n'a pas forcément, quand même.
Effectivement. Et quand même, je vais décrire un petit peu, parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent, mais d'autres qui ne connaissent pas. Le Puy du Fou, c'est que des spectacles. Il y en a, il y a pas de grand 8, tout ça. Et c'est donc un parc qui dessine les traits d'une France qui n'a jamais existé. En tout cas, de la France les représentants de cette religion et les croyants, etc., sont des pauvres personnes persécutées. Ou alors, ils arrivent à comment on dit
Unifier.
Ouais, unifier en tout cas, que les autres ils adoptent la religion chrétienne.
Ah, convertir.
Convertir, ouais. Merci. Et bien évidemment.
Mais pas de force évidemment.
Non, bien évidemment. Pas jamais, hein. Avec des bisous. Vous ouais. Imaginez bien quand même les religieux.
Il faut en parler aux Celtes, ça va leur plaire ça.
Moi ce que je proposais, c'est un peu quand même de rappeler Philippe de Villiers, parce qu'on le connaissait quand même. Il était dans un. Alors c'était.
Mouvement pour la France.
Mouvement pour la France, ouais. Qui est quand même. Très à droite, hein, on peut dire à l'extrême droite. Et il s'est retiré de la vie politique, tout ça, donc on peut se dire, il a peut-être changé, tu vois.
Moi, j'ai eu un espace qui avait un cancer à l'œil, je me suis dit, il va y rester, même pas.
Bah non. Et donc, je me suis dit, l'idée, c'est quand même que tout ce qu'on fait, selon moi, ça a quand même. Ça dessine aussi des choses, etc. Et qu'aller au Puy du Fou, c'est pas non plus neutre, en fait. Je cherche pas à persécuter ou à culpabiliser les gens qui y étaient ou qui y vont ou qui y iront. De toute façon, ils font bien ce qu'ils veulent. Par contre, l'idée, c'est quand même de rappeler que monsieur Philippe de Villiers, il a pas vraiment changé. En novembre 2014...
C'est rien, quelqu'un qui regarde par la fenêtre.
D'accord. En novembre 2014, en fait, il a répondu à une interview... Et je trouve que c'est intéressant quand même de redonner un peu ses dernières paroles. Enfin, vous voyez, en date en tout cas.
Juste quand même, pour mémoire, le parc lui appartient, je crois, c'est ça.
Ouais, alors ça, tu vois, c'est un peu l'erreur que j'ai faite. J'ai pas cherché ça. Il écrit des spectacles.
Ouais, il est cofondateur et il est actionnaire majoritaire du parc,
Et donc, on lui pose 2-3 questions. Donc, moi, l'idée, je vais vous lire. Hein. Si c'est un peu trop long, vous me le dites, on raccourcira. Comme d'habitude. Enfin,
Vas-y.
Donc, on lui demande son regard sur la génération Manif pour tous.
Et lui, il dit, ben, la première urgence, c'est que, est de retrouver l'idée de France. Une nation n'existe pas sans contour, ni compteur. Si elle cesse de rêver, de se définir, elle perd ses frontières, elle s'abîme. Mais il faut savoir lire les lignes d'espoir comme l'immense succès de la Manif pour tous. C'est la première fois dans l'histoire de France, écoutez bien, que des gens ont quitté leur domicile, leurs soucis familiaux et personnels, leurs inquiétudes économiques, afin de venir manifester pour des idées et non pour des intérêts. C'est la protestation la plus gratuite de notre histoire. Cela laisse penser que la France ne veut pas mourir. Quand il y a 1 million de personnes dans la rue, qui refusent, c'est qu'elle refuse qu'elle meure, elle ne mourra pas.
Donc en gros, pour Philippe de Villiers, la Commune n'a pas existé, la Révolution française non plus, 36 non plus. Donc,
ah mais c'était... même, je veux dire, je crois qu'il y a souvent plein de gens dans la rue. Quoi.
Le 1er mai n'existe pas non plus. Ouais,
c'est assez... Alors je trouve que déjà, tu vois, cette première chose, je trouve qu'elle dessine déjà un peu sa son approche en fait, de la lecture des faits et tout ça.
Moi, je peux déjà dire que je ne l'aimais pas, mais je l'aime encore. Moi.
Ah ben ouais. Et quand même, je vais vous donner encore 2-3 parce que ça a scié quand même le personnage. C'est, on lui demande s'il souhaite exalter les racines chrétiennes de la France, voire de l'Europe. Je rappelle quand même que Philippe de Villiers n'est plus politique, mais il a ce parc hein, dont on parle depuis Dufou. Et il répond, l'Europe est en train de mourir. Elle meurt culturellement et démographiquement. Elle meurt d'un chassé-croisé entre l'avortement de masse et l'immigration de masse.
Tu veux nous faire vomir là,
ouais, alors, non, mais justement,
il fait chaud déjà qu'on n'est pas bien.
En fait, je veux pas trop donner de publicité à ses propos, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on se rende compte, justement. C'est en 2014, ouais. Je pense qu'il a pas vraiment changé, en fait. Hein. Et pour lui, il dit, pour qui regarde la Russie du fameux diable Poutine tel qu'elle est décrite par l'Amérique consumériste et multiculturelle d'Obama, il est facile de constater qu'elle connaît une véritable restauration de ses valeurs civiques, morales et spirituelles. Pendant qu'on inaugure un McDonald's en Europe, on ouvre une église orthodoxe en Russie. Wow. Il se pourrait bien qu'un jour, la troisième Rome vint sauver la seconde. C'est beau, n'est-ce pas ?
Donc il rêve d'une invasion russe, le monsieur.
Ben c'est... Alors, je termine avec cette troisième question qu'on lui pose. Et donc, on lui dit, mais vous n'avez plus de mandat. Et quel rôle politique entendez-vous jouer ? Il dit, même si je ne regrette rien de ce que je faisais avant, ce que je fais aujourd'hui me paraît plus utile. Ce sont les idées qui mènent le monde et l'œuvre du Puy du Fou, qui est une œuvre de civilisation et de rayonnement, fait découvrir à beaucoup de jeunes Français la France et l'histoire de France. Il l'a fait également découvrir à beaucoup d'étrangers. Le Puy du Fou est en train de devenir un fleuron dans le monde entier. La Russie le sollicite, l'Amérique le plébiscite, l'Amérique qui critiquait dans la question juste précédente.
L'Amérique consumériste.
Oui, c'est ça.
Dirigée par un noir, parce que c'est ce qu'il voulait dire, par le multiculturel de Barack Obama.
Et il termine par nous venons de recevoir la plus haute distinction mondiale aux États-Unis, et ça c'est vrai, cette semaine, et le jury mondial a déclaré le Puy du Fou est désormais sur le toit du monde. Alors moi, ce que je propose, c'est d'y aller vraiment sur le toit du monde. Je crois que c'est l'Everest. Alors peut-être que Philippe de Villiers pourrait partir à 8000 20 mètres de hauteur et on serait peut-être un petit peu mieux.
T'en veux vraiment au Népalais ? Ils viennent déjà de se
plier. Ouais, je sais, non, mais c'est vrai, il faut qu'on assume nos merdes de Villiers, aussi. Quoi, mais... Et donc, voilà. Et je voulais quand même continuer sur la Fondation Le Jeune.
Ouais.
Parce que là aussi, encore une fois, c'est pas une fondation au hasard et le Puy du Fou fait rarement des dons à des fondations par hasard. Donc là, je vais vous citer le Wikipédia de cette fondation Jérôme Lejeune. C'est une fondation reconnue d'utilité publique qui poursuit les travaux du généticien Jérôme Lejeune, soutenant notamment la recherche de la trisomie 21. Alors avant de continuer en fait sur les positions politiques de la fondation, en fait j'aimerais juste qu'on s'arrête vite fait sur cette reconnaissance d'utilité publique parce que j'ai trouvé une info qui est juste assez intéressante et les conditions donc d'obtention de celle-ci. Et donc c'est un article de l'UMA que j'ai retrouvé et ils disent en 96 une reconnaissance express. La Fondation Lejeune aura mis moins d'un an à obtenir du gouvernement en 96 sa reconnaissance d'utilité publique. Un record quand une fondation comme celle de l'abbé Pierre a mis 4 ans à décrocher le précieux label qui permet de recueillir des dons et des legs disponibles des impôts.
Déductibles,
pardon. J'ai dit quoi ?
Disponible.
Ah, pardon. Intervention divine. À l'époque, le très pieux Hervé Guémard, si vous vous souvenez un petit peu...
Ancien ministre.
Ancien... Voilà. Eh bien, le monsieur, il est cofondateur de l'association Les Amis du Professeur Lejeune. Il se trouve aussi qu'il était secrétaire d'État à la santé. Sa femme, Clara Lejeune, fille du professeur, était-elle directrice du cabinet de Colette Codaccioni, ministre de la solidarité entre générations. Et quant au président de l'époque, Jacques Chirac, il était membre d'honneur de l'association. Donc là aussi.
Oh, même Jaco le Gentil, c'est un salopard.
Ah bah oui, et puis. Donc voilà, je vais essayer de continuer parce que je crois que c'est un petit peu long ce que j'ai fait.
Vas-y, continue.
Et donc voilà pour cette petite parenthèse sur la reconnaissance d'utilité publique. Donc on va en revenir un peu à cette fondation Lejeune, qui est toujours, selon Wikipédia, d'inspiration chrétienne. Elle est l'une des principales associations du mouvement pro-vie en France, militant contre l'IVG. Donc contre le droit des femmes d'être maîtresses de leur corps quand même, hein, rappelons-le, contre l'euthanasie, contre la recherche sur le vivant, autrement appelée cellule souche. La Fondation Jérôme Lejeune milite contre l'avortement ou soutient des associations anti-IVG comme Life Parade.
Je vais juste dire quand même que la notion de recherche sur le vivant, c'est eux qui l'ont mis dans le débat. Et qu'en fait, au départ, on ne parle pas du tout de recherche. On fait la recherche sur le vivant tout le temps. Enfin, on cherche des trucs sur ce qui vit. Et qu'en fait, quand on parle de recherche sur le vivant, c'est eux qui ont imposé cette notion-là. En fait, c'est des recherches sur des cellules. Donc voilà, mais ce n'est pas grave de faire des recherches sur les cellules. Mais cette digression sert à faire croire qu'on prendrait des enfants dans les orphelinats pour faire des recherches sur eux. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, c'est comme la théorie du genre qui voilà, a été inventée en fait, par la Manif pour tous, hein, pour eux.
Et ben, on en revient à ça. Parce que là, je vais vous donner le nom de quelqu'un, à mon avis, ça va vous rappeler. Ludivine de la Rochère.
Mais oui.
Et ben,
Lude la Malbaisée, comment
elle était de la Manif pour tous.
Mais oui.
Et ben, elle est responsable de la communication de la fondation depuis 2010.
Ah, oh, une copine.
Vous voyez ce petit cercle un petit peu comme
ils sont tous entre eux de toute façon.
Oui.
Et ils se reproduisent même entre eux.
Et selon un journaliste en fait qui est un peu catho de gauche en fait, j'ai fait quelques petites recherches. Ben pour lui en fait qui s'appelle Peter Hertel, pour lui la fondation Jérôme Lejeune, c'est une association proche de l'Opus Dei. Le président actuel de la fondation, Jean-Marie Lemenet, est lui-même considéré par Michel Dufour comme un proche de l'Opus Dei. Tandis que Jérôme Lejeune, donc le scientifique au départ, lui était membre de l'Opus Dei.
Ouais, en plus, il a servi de caution scientifique à plusieurs papes pour dire des horreurs, mais vraiment hein, sur l'avortement, sur la pilule du lendemain. Enfin, c'était vraiment une saloperie. Hein,
Et ben, alors, c'est ce que. Alors, peut-être que je l'ai plus loin, je ne sais plus. Mais en fait, c'était. On va dire que c'est grâce à Jérôme Lejeune, on va quand même lui rendre ça à la rigueur, c'est qu'on ne dit plus mongolien. Par contre, c'est à cause de lui que IVG est devenu interruption.
De vie, je
sais pas. De vie gênante.
Voilà, ouais.
Donc voilà, ça parle, je pense, suffisamment. Je vais quand même revenir aussi sur cette utilité, enfin cette reconnaissance d'utilité publique, parce qu'en fait, ça leur permet de ramasser un maximum de pognon, mais vraiment, juste quand même pour info, la fondation, hein, elle a un budget de 10 millions d'euros. C'est juste quelque chose d'assez incroyable.
Parce qu'officiellement, ils font de la recherche.
Oui, c'est ça.
Officiellement.
Mais si vous allez sur leur site, c'est très bien parce qu'ils font des campagnes spéciales ISF. Mmh. Donc, ils s'approchent des gens qui payent beaucoup d'ISF. C'est pas moi, hein, je vous rassure, ni vous, ni nous.
En fait. Ah non, je confirme. Non.
Et donc, en fait, selon le registre officiel des fondations reconnues d'utilité publique, la fondation a pour but de poursuivre l'œuvre du professeur Lejeune. Et donc, le document, il précise, c'est de la recherche médicale sur les maladies de l'intelligence et génétique. C'est de l'accueil et soins des personnes atteintes de la trisomie et autres anomalies génétiques. Une noble cause qui en cache une moins reluisante. Donc Jérôme Lejeune, là, effectivement, enfin, je vais pas faire de la répète, mais il était ultra catho, membre de l'Opus Dei, opposé à l'IVG. Donc voilà, c'est la fondation, elle remplit des fonctions qui lui sont officiellement attribuées, soigner et chercher. Par contre, elle revendique aussi une troisième mission, qui est celle de défendre la vie.
Et ça, personne ne leur reproche. C'est quand même quelque chose de dingue, hein, parce que vous êtes une association, par exemple, je vais prendre une au hasard, RESF, et vous dites un jour que vous avez un rôle politique et on vous fait chier en disant « mais c'est pas ce que vous avez déclaré au journal officiel ». Et là, la Fondation Lejeune, personne ne leur dit « hé, t'es en train de faire un truc que t'avais pas déclaré ».
C'est exactement ça, en fait. Donc, quand tu vois après les liens qu'il y a avec les politiques, etc., oui. Bon, ben, tu peux aussi comprendre que bon, ben, ça arrange un peu tout le monde. Et donc, quand même, ben, cette association, grâce à tout ce pognon...
Il y a combien de salariés, la Fondation Louis-Jean ?
Alors, combien de salariés ? Alors, je n'ai pas le chiffre, mais alors, il y a quelque chose d'hyper étonnant, c'est que sur leur site, j'ai bien compris, c'est que sur la France entière, il serait 350 militants.
Ouais. Donc, ils n'ont pas beaucoup de chercheurs, a priori, dans leur fondation de recherche.
Donc, après, je ne sais pas ce qu'ils englobent, justement, dans les militants, dans ensuite la section recherche. J'ai pas les chiffres.
Je dis ça parce qu'il faut être concret. Hein. Quand on parle d'un labo de recherche, c'est-à-dire quand c'est au moins 40 personnes. Ouais, déjà, il faut au moins 40 personnes qui cherchent. C'est ça, un labo de recherche, vu tous les besoins qu'il y a. Enfin, on parle quand même de recherche sur la trisomie. Hein. Ce n'est pas non plus une recherche d'un nouveau moustique. Quoi. Donc, c'est au minimum 40 personnes. Donc déjà, s'ils n'arrivent même pas à donner le nombre de chercheurs qui travaillent pour eux, c'est qu'il ne doit pas y en avoir des masses. Quoi.
Alors, peut-être que je ne l'ai pas trouvé non plus. Hein. Mais en tout cas, je n'ai pas le chiffre.
Ah, tu l'aurais vu sur leur site en première page. Quoi.
Enfin. Effectivement. Et donc, grâce à ce pognon, j'en reviens à toujours ce pognon qu'ils ont quand même, la Fondation, elle édite par exemple un manuel de bioéthique à l'usage des jeunes.
Un livret, ça sent mauvais, ça.
Un livret visiblement destiné à un public à peine adolescent, distribué gratos. Déjà à peu près 350 000 exemplaires se targuent donc Jean-Marie Lemenet sur la page Facebook de la Fondation.
Ils ont vraiment les moyens, quoi.
Ouais. À l'intérieur, le stérilet et la pilule du lendemain, ils deviennent des méthodes abortives. Donc,
pourquoi le stérilet et la pilule du lendemain aussi, d'ailleurs, mais... Parce que le spermatozoïde, il est triste, il arrive devant le cercle, il fait « Oh, je ne peux pas y aller oui. !» c'est terrible.
Et dans ce même livret, en fait, on préconise aux femmes tombées enceintes, suite à un viol, de ne pas avorter. Mm-hmm. Le livret interroge. Donc, on file ce livret à des ados. Hein. Le livret interroge donc « Pourquoi l'enfant innocent subirait-il la peine de mort que ne subira pas le criminel ?»
La peine de mort.
La peine de mort.
Donc, en cas d'hésitation, on y trouve des numéros joignables 24 heures sur 24 pour parler librement. Bien
et
évidemment.
Centre pro-life, on imagine.
Ben bien évidemment, au bout du fil, t'en as des gens qui sont
anti-avortement. Bizarrement, le planning familial n'est pas répertorié, laisse-moi deviner.
Donc voilà.
T'as pas le numéro qu'on les appelle là pour se marrer un peu ?
Non, franchement, non. On parle déjà d'eux là, c'est déjà beaucoup. Mais voilà, enfin, pourquoi moi je vous raconte tout ça ? C'est juste parce que je pense qu'on se doit effectivement individuellement et collectivement. En fait, de continuer de nourrir en fait l'argumentation aussi qu'on a dans nos positions, c'est-à-dire que faut arrêter. Enfin, des fois, on est trop dans des positions faciles, c'est-à-dire c'est des méchants quoi. Mais enfin, ils sont méchants, c'est du capitalisme ou je sais pas quoi. Ça suffit pas. Enfin, je veux dire, il faut qu'on parle aussi aux gens, il faut qu'on démonte en fait le mode de fonctionnement. Toujours parce qu'il faut qu'on connaisse nos ennemis, parce que pour moi, ils font partie de mes ennemis en tout cas. Il faut continuer de démontrer aussi les liens qu'il existe entre toutes les sphères réactionnaires. Et je trouve que cet exemple-là, il est vraiment très bien parce qu'on fait quasiment une boucle en fait.
Ah oui, clairement. Ouais.
Entre la manif pour tous, les réacs catho-fachos, etc. C'est vraiment assez incroyable.
Et surtout, on voit que le parc est idéologique.
Oui.
Parce que même son fondateur le dit. C'est-à-dire que le but du parc, c'est de faire passer une vision de l'histoire qui n'existe pas.
C'est exactement
ça. Une vision idéologique de l'histoire.
C'est ça. Et c'était un peu ma fin. Et en même temps, enfin, moi, ce que je continue aussi, c'est qu'il faut continuer aussi à démonter j'ai mis. Les religions, dans ce cas les cathos, mais on peut tous leur en donner un petit peu, pour leur capacité de nuisance quand même sur la liberté des femmes, toujours en premier quand même. Hein, faudrait à un moment donné arrêter de croire que les religieux peuvent...
Je te rassure, mon petit chéri, on est en deuxième hein, après les femmes.
Et bien, il y a donc, voilà, et que ben, leur volonté de dominer le monde pour le bien de toutes et tous, il est toujours là, et qu'il faut arrêter de se leurrer, de croire qu'ils sont juste gentils. Et ben voilà, il faut aussi, comme tu le disais, en fait, se rappeler que tout est politique, que rien n'est gratos, que rien n'est fortuit, que ben, tout ce qu'on fait, ben, aller au Puy du Fou, ben, c'est financer la frange d'extrême droite. Je vous dis pas qu'elle est à McDo, qu'elle est à Disney, Disney. C'est pas à financer le capitalisme. Attention, je dis pas ça non plus, mais là, on est. Enfin, je trouve que.
Dans l'idéologie pure.
Oui.
Il y avait un spectacle au Puy du Fou sur la conversion, soi-disant, la conversion spontanée des Romains au catholicisme.
Et des Vikings aussi.
Ouais, des Vikings. Enfin voilà, il laissait croire en fait que d'un seul coup ça s'était fait sans heurts et parce qu'ils s'aimaient beaucoup et puis d'un seul coup ah tiens c'est cool d'être catho. Enfin, alors que enfin historiquement c'est une aberration.
Oui, il y a eu un peu des massacres. Hein,
des massacres. On a obligé des villages entiers à se convertir sous menace de tuer les femmes du village. Enfin je veux dire c'est il y a quand même des réalités historiques et en fait Voilà, il transforme en fait l'histoire en donnant l'impression que oh bah, tout était merveilleux, la religion catholique, une religion de paix et d'amour et tout ça. Mais voilà,
la version des vainqueurs en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Non, mais c'était bien.
Et donc voilà.
Donc, finalement, on va pas au Puy du Fou.
Bah non, on a lu la sortie.
Bon, bah tant pis, on ira chez Mickey.
Bien sûr. Bon, allez, on se met un peu de musique parce qu'on est à la bourre.
Oui.
De Radio Canu. C'est toujours la causerie. Il est largement 23h dépassé. On est super méga à la bourre. On vient quand même de s'écouter Bleu Lagon de Mansfield Tia. Et c'est le premier extrait de leur prochain album. Et ben moi j'aime beaucoup.
Qui sort en septembre.
Ouais, c'est ça.
Et on va juste dire qu'il passe le 1er octobre au Marché Gare à Lyon.
Quelle passe, pardon.
Oui, pardon, mais qu'est-ce que je suis couillon ce soir. Et du coup, il reste des places, donc vous pouvez prendre des places. Voilà.
Carrément, l'autre il fait la promo.
Bah non, je suis content. C'est suffisamment rare d'avoir Mansfield Tia à Lyon que quand elle passe, bah, ça vaut le coup de le dire. Quoi.
Ouais.
Voilà, c'est tout.
Ouais. Emma, elle n'a pas l'air convaincue, mais.
Si.
Okay.
Emma, elle a un problème de micro, elle tient son micro à la main, elle nous fait ça.
Elle
fait
mais Emma, elle n'en peut plus, elle... il fait 10 degrés trop pour moi.
C'est bon.
Elle nous fait une Jacques Martin.
D'ailleurs. Oui. D'ailleurs, pour que Radio Canu puisse acheter des ventilos et aussi son local, accessoirement. Et que si tu as envie de faire des dons à Radio Canu, Jean-Yves va te donner l'adresse où tu dois envoyer ton chèque.
Tout à fait. Tu envoies ton chèque à l'ordre déjà de Radio Canu.
Oui.
Et tu l'envoies à Radio Canu, BP 1101 69 201 Lyon CEDEX 01.
Et voilà.
Et puis après, si tu vas sur Internet, sur le site de Radio Canu qui s'appelle
radiocanu.org.
Mais c'est magnifique. Et ben là, il y a un petit onglet, ça s'appelle soutenir Radio Canu. Et ben vous retrouvez toutes les infos. Voilà.
Et même, même sur Facebook, tu trouves aussi soutenir Radio Canu. Voilà, donc n'hésite pas.
C'est la page d'Ambroise. D'Ambroise Canu. Ouais. Enfin bon.
Ça m'a plu, faut qu'on rende l'antenne.
Non, mais tout est vrai.
Oui, c'est vrai, tout est vrai. Et aussi sur le site de Canu, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais je vous le redis encore une fois, il y a le documentaire qui dure
10 minutes,
qui a été fait sur Radio Canu, qui s'appelle Radio Canu, Vivre libre ou mourir. Et ben, c'est un super doc qui a été fait, je trouve.
Et même que vous pouvez voir Fab.
Non, oui. C'est faux.
Si, c'est vrai.
C'est un autre Fab que vous voyez.
Non.
C'est pas moi.
Oh, la balance. Bah.
Voilà.
De toute façon, je le dis au début du film, donc je pense que les gens savent qui
c'est vrai.
Moi, je voulais juste faire un coucou aux émissions qui sont encore là cet été. Par exemple, le Petit Bazar, je voulais faire un coucou à Max et Nico, enfin surtout Max, parce qu'a priori, Nico n'est pas là cet été. Julien, qui est a priori revenu, mais reviendra peut-être ou pas, on ne sait pas.
Il fait des va-et-vient.
Il fait des. Ah bon
oh là là.
T'es au courant de trucs que je ne sais pas.
Mais arrêtez, il fait des va-et-vient entre ici et ailleurs.
Et voilà. Saluer aussi, pour ceux qui écoutent le dimanche, il y a une émission de reggae. Enfin, trois émissions de reggae qui sont là tous les après-midi et qui seront là tout l'été, donc c'est vachement cool. Et fait un petit coucou particulier à Fanelli parce que voilà.
Il y a aussi musique, etc. Le dimanche matin.
Ouais, qui lui va s'arrête finalement. Voilà, il reprendra juste la dernière semaine d'août. Voilà.
Il y a aussi l'air du jeu,
oui,
je crois.
Oui, on fait des bisous à l'air du jeu.
Ouais.
On fait des bisous à...
Au Canu Info du jeudi aussi, qui sont toujours là et vaillants et qui restent là encore quelques temps. Donc, c'est le dernier qui survit.
Un Panorama Hebdo qui est là tout l'été pour notre plus grand plaisir.
Voilà. Un Spectaculaire qui reprendra mi-août.
Ah non, c'est pas vrai.
Mais si, mais...
Non, mais là, on est en train de perdre du temps parce qu'on est en train de vous donner des infos où tout n'est pas vraiment clair.
Mais si, c'est écrit sur le panneau qui était dehors.
Non, en tout cas, restez à l'écoute. Il n'y a pas que la causerie l'été, même s'il y a moins d'émissions. Il y en a quand même encore et toujours qui restent à l'antenne. Donc, restez à l'écoute. Et puis voilà.
Ouais, si, moi, je vais faire un vrai coucou. Parce qu'on a Audio Infarctus qui a repris et qui s'est arrêté pendant 3 mois. Et voilà, donc écoutez Audio Infarctus. Cherchez sur la grille où quand c'est. Vous verrez, c'est bien.
Et voilà, et vous trouvez toutes ces infos aussi sur la grille des programmes sur radiocanu.org.
Et oui.
Et puis, on va se laisser là, je crois bien.
Ouais, on aimerait bien aller dormir, non? Je sais pas. C'est optionnel ou ce soir? Qu'est-ce qui se passe?
On y va. Je vais en profiter pour dire par quel titre on va se quitter. Mais je présente le titre de fin. Vous n'avez pas. Donc voilà, je vous jure. Donc, faire un coucou au King's Queer qui nous a envoyé ce titre et on les remercie. Et ça s'appelle Nomade et c'est vraiment très bien. Restez à l'écoute, c'est un très bon son. Voilà.
Yes. Et ben bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Clara la technique.
Au revoir Jean-Yves.
Au revoir Emma.
Au revoir.
Au revoir Fabien.
Au revoir.
Au revoir les amis auditeurs et auditrices. Ciao, bonne semaine, bon courage.
Bisous.
Ciao. Salut.
À l'assaut des îlots, des idéaux. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind. Open your mind, open your mind. Où vont-ils? Où sont-ils? Que font-ils? Pourquoi? Comment? Où ça? Attention. Fiches anthropométriques, dossiers biométriques, contrôle douanier, interdit de stationner. Territoire fermé, défense de rêver, pas permis d'exister, nomade. Tribu errante, souffle de l'errance, chaos nomade, souvent partante, idéaliste. Toujours utopiste, à l'assaut des îlots, des idéaux. Open your mind, open your mind, open your mind. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind. partance, idéaliste, toujours utopiste, à l'assaut des îlots, des idéaux. Open your mind, open your mind, open your mind.